Europe 1.
16h-18h,
historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Savez-vous, Mathieu, que l'illustre et iconoclaste philosophe allemand Friedrich Nietzsche est en quelque sorte mort deux fois ? Non. L'une le 25 août 1900, lorsque son cœur cessa de battre, et l'autre 11 ans plus tôt, quand sa raison l'abandonna. En effet, en janvier 1889, Nietzsche est à Turin, en Italie. Il envoie des lettres hallucinées à ses amis, ou même à de célèbres inconnus, pour partager des pensées quelque peu extravagantes et signe ses missives des noms de Dionysos ou le Crucifié. Alerté par ces étranges courriers, son ami Franz Overbeck se rend au chevet du philosophe et découvre qu'il est en vérité en train de basculer dans la folie. Le 3 janvier, pleurant à chaudes larmes, Nietzsche enlaçait un cheval battu par son cocher en voulant le protéger des coups. Anecdote restée fameuse pour illustrer son effondrement mental. Les jours suivants, ses voisins s'inquiètent des chants et borborygmes qu'ils entendent jour et nuit. Et quand Overbeck le retrouve dans sa chambre, le 8 janvier, Nietzsche prétend tout simplement être le successeur de Napoléon pour refonder l'Europe. Délirant, il sera emmené en clinique puis dans sa famille et demeurera mutique, apathique et déconnecté du monde jusqu'à la fin de ses jours, et ils seront longs. À Turin, au crépuscule de sa vie lucide, les identités dont Nietzsche s'affuble sont en fait celles qui l'ont nourri et fasciné durant toute sa vie. Dionysos donc, qu'il pose comme l'illustration de l'énergie vitale des passions, de l'ivresse, de la liberté et de l'accomplissement de l'homme face à son corollaire raisonné, stable et sociable qu'est Apollon. Le Christ crucifié, qu'il tue en même temps que son père en proclamant que Dieu est mort. Et plus étonnant dans ce cortège divin, Napoléon. Car Nietzsche fut toujours fasciné par l'empereur des Français. Sa figure par scène, c'est ses écrits incarnant autant l'histoire que le devenir souhaitable de l'humanité. Rappelons-le, Nietzsche est né en 1844 en Prusse. Il n'a bien entendu pas rencontré Napoléon, qui est mort, lui, en 1821, le 5 mai, hein, je le rappelle. C'est toujours utile. C'est d'abord par ses lectures qu'il a connu le personnage, car les hommes de lettres, de Stendhal à Goethe notamment, sont nombreux à avoir construit la légende de Bonaparte. Mais de figure historique, Napoléon passe, dans la pensée de Nietzsche, au statut de modèle proche du concept du surhomme. Peut-être la création de l'Empire allemand qui accompagne la vie du philosophe participe-t-elle à cette fascination ? L'Allemagne, jusqu'alors morcelée en une myriade de principautés, comme Eric Orsenna nous l'a rappelé tout à l'heure, commence un processus d'unification dans les années 1860. Après la guerre franco-prussienne de 1870, à laquelle Nietzsche participe comme infirmier, la Prusse fédère autour d'elle la nation allemande qui se fond en 1871 dans un empire, le Deuxième Reich. Ce qui aurait pu constituer une unification heureuse des cultures et peuples germaniques pour un monde nouveau que Nietzsche ambitionne, comme Napoléon d'ailleurs en son temps, n'est au final que l'avènement d'une époque vulgairement utilitariste engoncée dans un nationalisme étriqué. Nietzsche adopte à partir de 1876, lorsqu'il quitte son poste d'enseignant à Bâle pour des raisons de santé, une vie de nomade, loin du gris sur gris nordique, cherchant partout un climat indulgent entre Suisse, Italie et sud de la France, proche de la Méditerranée qui engendra justement le Corse Napoléon, autant que les cultures antiques qu'il aime tant. Car Nietzsche n'aime pas son époque. Pour résumer succinctement sa vision de l'histoire, place en l'Antiquité grecque une sorte d'absolu, rabaissé par Platon et son idée du bien, relancé par la Renaissance que viendront saper les Lumières et la Révolution française. Je vous le disais, c'est un iconoclaste. Si la Révolution passe pour de nombreux penseurs comme l'accomplissement de la liberté et d'une certaine civilisation, Nietzsche voit en Napoléon celui qu'il a fort heureusement renversé. Nietzsche préfère la grandeur héroïque à la molle envie de fraternité et d'égalité qui ne donna qu'un régime bourgeois et matérialiste. Il n'accepte pas le dogme de l'égalitarisme démocratique bâti, selon lui, sur le dogme chrétien. Il exècre d'ailleurs le socialisme, qu'il considère comme un christianisme dégénéré. L'égalité d'une masse grégaire signifie la négation de l'individu, de sa force et de sa volonté. La société, en tentant de protéger les faibles, ne fait que perpétuer les faiblesses. Seul l'individu peut donner un sens au nihilisme. Pour lui, cet individu autonome est un surhomme, faisant fi de la morale, par-delà le bien et le mal, pour reprendre le titre de son célèbre ouvrage. Il n'est pas un dieu transcendant ou un messie, il n'est pas une image, au contraire, il est un humain total qui produit quelque chose, et surtout un renversement des valeurs, un être cher à Nietzsche. Le surhomme est créateur, il suit ses instincts et ses passions, ses pulsions, au sens où il exerce sa puissance tel Napoléon, identifiant les intérêts de la France à ceux de sa volonté, assumant le pouvoir qu'il s'octroie, jouant des contingences, celles du pape par exemple, du peuple ou de ses ennemis. Certains pourront rétorquer que la volonté de Napoléon passe par les atrocités de la guerre. Oui, mais cela n'est pas un problème pour Nietzsche, qui dit de lui-même « Je suis belliqueux de nature, l'agression fait partie de mes instincts. » La guerre est l'instant de libération d'énergie nouvelle, constructrice, dans lequel se dissolvent les contraintes sociales. Et de ces guerres, Napoléon a fait émerger une nouvelle aristocratie, notion très importante pour Nietzsche, fondée non sur la naissance, mais sur la conquête. Exactement ce que le philosophe appelle de ses vœux. La guerre est une conquête et comme le dit son double et prophète Zarathoustra, « Je ne vous conseille pas la paix mais la victoire », à quoi l'on pourrait ajouter une phrase de Napoléon « Vaincre n'est rien, il faut profiter du succès ». Mais surtout Napoléon voulait créer une Europe unie, sous son joug certes, mais unie tout de même. Et c'est peut-être dans cet aspect que Nietzsche se retrouve le plus. Un haut degré d'humanité sera possible quand l'Europe des nations sera un sombre passé oublié, écrit-il. Il ne vise pas une simple association de pays européens à l'image de celle que nous connaissons aujourd'hui, mais bien un élan commun des individus, des cultures et des arts dans un monde renversé, libéré de Dieu et de la morale, éclairé par des hommes nouveaux, à l'image, selon ses mots, de Napoléon, lui qui voulait l'Europe unie pour qu'elle fût maîtresse du monde. Il est complexe de comprendre, derrière la poésie, les aphoristiques sentences et l'ampleur de l'œuvre de Nietzsche, ce qui est allégorique et ce qui n'est pas, ce qui est prophétique ou fantasmatique. Mais il semble que s'il fut autant fasciné par Napoléon, ce n'est pas tant pour son sceptre, son code civil ou sa légion d'honneur, ce n'est pas tant pour tout ce que l'homme a fait, mais pour sa puissante volonté d'action. L'approche n'est plus historique, Mathieu, mais philosophique. Nietzsche a placé en l'empereur son souhait d'un homme nouveau. Et comme le disait Napoléon Bonaparte lui-même, les hommes sont ce qu'on veut qu'ils soient.
Europe 1, historiquement vôtre.